Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Récits insolites de la Bible. Comme à l'habitude, vous êtes en compagnie de Sébastien Daune. Vous le savez, je suis un bibliste et j'avoue que j'ai un faible pour les récits de la Bible qui sortent de l'ordinaire. Tellement que j'en ai fait un livre et deux séries d'émissions, ici même à Radio Ville-Marie. La dernière fois, on parlait d'une compétition entre Yahvé et Baal qui était organisée par un prophète qui s'appelle Élie. Un prophète qui est assez particulier dans l'Ancien Testament et dont la vie, le ministère sont remplis de miracles et toutes sortes de prodiges. Bon, aujourd'hui, on va regarder celui qui est peut-être le plus spectaculaire dans sa vie. C'est qu'à la fin de sa vie, au lieu de mourir, ben, il va partir sur un char de feu vers le ciel. Je vous raconte son histoire dans quelques instants. Avant d'en venir à la grande chevauchée d'Élie dans le ciel, je vous propose un temps pour vos questions, vos commentaires. Et je vous avoue que cette semaine, j'ai été vraiment surpris. Surpris par l'ampleur que cette émission est en train de prendre. Je vous explique. Une fois diffusées sur Radio Ville-Marie, ben, nos émissions sont placées dans des capsules audio sur un site Internet qui s'appelle Interbible, www.interbible.org. C'est un portail biblique francophone pour lequel moi je suis le responsable de la rédaction. À partir de ce site-là, n'importe qui peut écouter les émissions passées. Et bon, alors ils peuvent le mettre sur leur iPod, leur cellulaire, lecteur MP3, l'écouter quand ils veulent. Or, j'ai été contacté par courriel par un groupe qui vient du Burundi, en Afrique, et qui suit régulièrement l'émission. Alors, je les salue. Il s'agit d'une petite église évangélique qui est en train de se mettre sur pied et qui cherche des collaborateurs pour leur travail de mission. Ils aimeraient avoir nos émissions et essayer de les diffuser dans leur radio au Burundi et même les faire traduire en swahili par quelqu'un là-bas. Je vous avoue que ça m'a surpris, moi, un blanc catholique du Québec qui n'a jamais mis les pieds en Afrique. Comment est-ce que je peux les inspirer? Ben, c'est là qu'on voit l'universalité de l'intérêt pour la Bible. C'est un livre qui a marqué l'histoire de l'humanité et qui marque encore notre monde dans lequel on est, là. Alors, peu importe notre couleur de peau, notre éducation, peu importe notre confession chrétienne, moi je suis catholique, eux sont évangéliques, peu importe notre pays, la Bible peut nous unir. Ce que je retiens de tout ça, c'est le zèle de ce petit groupe africain dont l'objectif est de faire connaître la Bible par tous les moyens possibles. Alors, je leur souhaite bonne chance en swahili, je vais essayer ça, Bahati Nzuri. Et on poursuit avec un peu de musique qui nous mènera à notre sujet du jour, Élie, le prophète, voilà. Ceux qui ont écouté le dernier épisode de notre série savent que les récits décrivant la vie du prophète Élie sont remplis d'événements extraordinaires et toutes sortes d'événements insolites. Mais il n'y a rien qui égale son enlèvement vers le ciel. À la fin de sa vie, Élie ne va pas mourir comme tout le monde. On va voir cette histoire-là, on va la lire. Ça se retrouve, pour ceux qui ont leur Bible en main, dans le deuxième livre des Rois. Alors, il y a deux livres des Rois, c'est le deuxième, au chapitre 2, les versets 5 à 15.
Voici ce qui arriva quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans la tempête. Élie et Élisée quittaient Gilgal. Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître dans les airs au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Et ils s'en allèrent tous deux. 50 d'entre les fils de prophètes allèrent se placer en face du Jourdain, à distance d'Élie et d'Élisée, qui s'arrêtèrent tous deux près du fleuve. Alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se séparèrent. Ils passèrent tous deux à pied sec. Comme ils passaient, Élie dit à Élisée, « Demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que vienne sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. » Il dit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi, alors il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne sera pas. » Tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans la tempête. Quant à Élisée, il voyait et criait, « mon père, chars et cavalerie d'Israël !» Puis il cessa de le voir. Il saisit alors ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, revint vers le Jourdain et s'arrêta sur la rive. Il enleva le manteau qui était tombé des épaules d'Élie et en frappa les eaux en disant, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux. Elles se séparèrent et Élisée passa. Les fils de prophètes, ceux de Jéricho, qui l'avaient vu d'en face, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. »
On vient d'entendre un récit qui est tiré du deuxième livre des Rois, au chapitre 2, les versets 5 à 15. On voit que Élie est donc emporté au ciel sur un char de feu. Pour bien comprendre ce récit-là, faut connaître la façon dont les hommes et les femmes de la Bible se représentaient la terre, le monde qui les entoure. C'était très différent de nous aujourd'hui. Pour eux, la terre était plate. Christophe Colomb n'avait pas encore fait son voyage en Amérique. On ne savait pas que la Terre était ronde, elle était plate. Et elle était même soutenue par de gros piliers. Et c'est sur la Terre que vivaient les humains. En haut, dans le ciel, se trouvait une espèce de voûte. Et par-dessus cette voûte, on retrouvait des eaux, les luminaires, mais surtout Dieu et sa cour divine. Alors donc, tout comme la Terre était le lieu pour les humains, le ciel, c'était le lieu où Dieu se retrouvait. Et sous la Terre, il y avait un autre lieu, le lieu de la mort, le Sheol. Eh bien, dans notre récit, Élie part de la terre, le lieu où vivent les humains, pour aller vers le ciel, le lieu de Dieu. D'ailleurs, on surnomme Élie dans la Bible un peu tout le temps, on l'appelle l'homme de Dieu. Alors, c'est un homme de Dieu et ça semble être presque normal qu'il retourne vers Dieu à la fin de sa vie, qu'il s'en va comme ça vers le ciel. Il est tellement rempli de Dieu que comme ça, il est élevé pour aller vers Dieu à la fin de sa vie. C'est sûr qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein, parce que, bon, comme ça, c'est impossible. On sait maintenant, avec les astronautes qui partent vers la Lune, à quel point c'est compliqué de sortir de l'atmosphère et tout ça, ça serait impossible sur un char de feu. C'est bien entendu un texte à prendre au niveau symbolique. Cet enlèvement a lieu au cours d'une tempête. Ça n'a rien d'anodin non plus. Les tempêtes sont des circonstances classiques de manifestation de Dieu. On voit ça un peu partout dans les Écritures, surtout dans les prophètes. Quand Dieu va choisir de se manifester, ça va être à travers une tempête. On voit ça entre autres dans Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. De même, le feu qui est associé aux chars et aux chevaux, ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent. Le feu est souvent symbolise la puissance du Seigneur. Donc, on a un feu qui symbolise la puissance du Seigneur, qui amène ça dans une tempête, la manifestation de Dieu. C'est clair que ce qui se passe là, ce n'est pas anodin. C'est Dieu qui vient chercher Élie pour le ramener vers lui. Pourtant, la clé du récit, ce n'est pas tant l'aspect spectaculaire que la transmission. La clé du récit, c'est la transmission de la mission d'Élie vers Élisée. C'est ça qui est important dans ce texte-là. Et pour ça, on utilise un élément symbolique, le manteau d'Élie. C'est l'instrument dont il va se servir avant, quand Élie fait son ministère, il va se servir de son manteau pour séparer les eaux. Un peu comme le bâton de Moïse lors du passage de la mer des joncs ou lors du passage du fleuve du Jourdain. Donc, un peu comme le bâton de Moïse, le manteau d'Élie va servir à faire quelques miracles. Le lecteur comprend qu'Élie possède des pouvoirs semblables à ceux qui ont été donnés par Dieu à Moïse. Donc, Élie est en quelque sorte une sorte de nouveau Moïse pour le monde qui sont autour de lui. Et ce manteau-là va devenir le symbole de la transmission de sa mission et des pouvoirs. Parce qu'en partant, il va laisser tomber son manteau et c'est Élisée qui, à son tour, va le prendre et va séparer les eaux. C'est donc le signe que l'Esprit de Dieu qui était avec Élie va être à nouveau, mais va être avec Élisée. Lorsqu'Élie est enlevé au ciel, bien, Élisée va d'abord déchirer ses vêtements. Ça aussi, c'est un geste fort symbolique. Dans la Bible, c'est un geste normal. On voit ça souvent dans le cas de deuil. Quand on a une grande perte, quand il y a quelque chose de douloureux qui se passe, on va déchirer ses vêtements. On voit ça ailleurs dans la Bible. Il y a toutes sortes de passages, mais je vous fais grâce de tous ces chiffres-là. Élisée, après avoir déchiré ses vêtements, va être ensuite prêt à revêtir le manteau d'Élie et à continuer l'action prophétique de son maître. Alors, à quelque part, il se dépouille de sa propre personnalité pour prendre celle de son maître, d'Élie. Les vêtements, en particulier le manteau, représentaient la personne même de celui qui le portait. À l'époque biblique, on ne connaît pas du tout la mode, la diversité vestimentaire qui est la nôtre aujourd'hui. Chaque morceau est unique parce qu'il est confectionné à la main. Alors, il y avait une valeur particulière pour chacun des morceaux qu'on portait. Tel vêtement représentait telle personne. Puis souvent, une personne n'avait qu'un seul manteau. Donc, le manteau d'Élie, à quelque part, ça représente la personne même d'Élie. Alors, on voit que la transmission de ce manteau-là, il n'y a rien d'anodin, et ça montre, le but du récit veut nous montrer comment Élisée va prendre la suite du prophète Élie. Les chapitres suivants vont d'ailleurs raconter les différentes actions d'Élisée, qui vont toujours rester dans la même ligne que celle de son maître. Mais ce qui nous impressionne le plus, honnêtement, nous aujourd'hui, quand on lit ce texte-là, c'est surtout l'ascension d'Élie vers le ciel. Mais savez-vous qu'il y a dans la Bible, il y a d'autres exemples comme ça qui partent dans le ciel? Eh oui, il y en a d'autres. Élie n'est pas le premier ni le dernier. En fait, le premier, c'est très tôt dans la Bible, dans le livre de la Genèse, un certain dénommé Énoch. Énoch, c'est un personnage qu'on retrouve à mi-chemin entre Adam et Noé dans la généalogie du livre de la Genèse. Je vous cite un court extrait du livre de la Genèse, c'est chapitre 5, versets 23 et 24, qui nous parle d'Énoch. Énoch vécut en tout 365 ans. Ayant suivi les voies de Dieu, il disparut, car Dieu l'avait enlevé. C'est tout. C'est tout ce qu'on sait sur le personnage d'Énoch. Alors, il a vécu une très longue période, 365 ans, qui nous paraît encore une fois incroyable, mais dans le livre de la Genèse, les personnages vont vivre ce nombre d'années-là. Alors, c'est pas étonnant pour le livre de la Genèse, mais une chose qui est étonnante, c'est qu'il est enlevé et disparu dans le ciel. Ça, il n'y en a pas d'autres personnages dans le livre de la Genèse qui vivent ça. Et le texte fait un lien entre le fait qu'il suivait les voies de Dieu et le fait qu'il a été enlevé vers Dieu. C'est court, c'est très court, il n'y a pas beaucoup de détails, mais cet enlèvement d'Énoch-là va stimuler toute une réflexion. Et il y a plusieurs textes qui sont écrits en même temps que l'Ancien Testament, mais qui ne vont pas rentrer dans l'Ancien Testament. C'est des textes qu'on va appeler apocryphes, dans lesquels on va écrire une apocalyptique juive. Alors, on va écrire toutes sortes de textes apocalyptiques et il y en a plusieurs qui vont être centrés sur le personnage d'Énoch parce qu'on va attendre son retour lors du jour du Seigneur. Le deuxième personnage, vous les avez peut-être deviné, c'est qui? Alors, il y a l'autre personnage qui est parti dans le ciel, c'est l'ascension de Jésus ressuscité, telle qu'il est décrite dans l'Évangile de Luc. Ça se retrouve à la fin de l'Évangile, chapitre 24, le verset 51. Énoch, Élie, Jésus font donc partie d'un club assez sélect. Ce sont les trois personnages bibliques qui sont enlevés au ciel. Alors, bon, il y a aussi, on pourrait mentionner en passant, entre parenthèses, l'ascension de Marie. Alors, il y en a qui vont parler de ça, mais ça ne se retrouve pas dans la Bible. Donc, moi, comme bibliste, je m'en tiens à Énoch, Élie et Jésus. Tout comme l'enlèvement d'Énoch, celui d'Élie, si on retourne à Élie, qui est le personnage principal de notre récit, va être la source de développement apocalyptique. Il y en a d'autres qui vont continuer à écrire à son sujet. On s'attend à ce qu'il revienne sur Terre pour annoncer la fin des temps. Les légendes juives sont fort nombreuses à propos d'Élie, puis ça se retrouve dans des textes de la Haggadah. Ça, c'est une collection de textes rabbiniques dans les premiers siècles après la mort de Jésus. Dans ces textes, on voit que les rabbins ont inventé toute une de nouvelles aventures extra-bibliques à Élie. C'est comme si on avait écrit un roman de science-fiction avec de nouvelles aventures sur ce personnage et pour nous expliquer qu'est-ce qui arrive après son enlèvement dans le ciel et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va revenir pour annoncer la fin de l'histoire de l'humanité. Alors tout ça, bien entendu, c'est pas dans la Bible, mais c'est des textes quand même qui ont été écrits à cette époque-là. La tradition chrétienne a beaucoup été inspirée par le personnage d'Élie. On le retrouve un peu partout dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Marc, par exemple, on va voir en Jean-Baptiste la personne d'Élie qui est revenue sur terre avant la venue du Seigneur. Jean-Baptiste et Élie, d'ailleurs, s'habillent de façon similaire. Plus loin dans l'Évangile, Jésus lui-même va laisser entendre que Jean-Baptiste est Élie revenu sur terre. Ça, c'est dans Marc, chapitre 9, verset 13. Et les récits de la transfiguration de Jésus vont placer Moïse et Élie en sa compagnie, sur la montagne. On voit encore là un autre club sélect, Moïse, Élie, Jésus. Lorsque les gens se demandent qui est Jésus, certains vont affirmer qu'il est Élie, qui est attendu pour annoncer la fin des temps. Donc on voit qu'au moment où on écrit les évangiles, ce personnage d'Élie-là est encore très présent parce qu'on s'attend à ce qu'il revienne lorsque la fin du monde va se présenter. On va justement parler de la fin des temps en essayant d'actualiser notre texte. Pour vous, à quoi va ressembler la fin des temps? Est-ce qu'il va en avoir une? Quand est-ce qu'elle va avoir lieu? C'est ce qu'on verra après un peu de musique. Vous écoutez les récits insolites de la Bible avec Sébastien Daune. Aujourd'hui, on a raconté l'histoire de l'enlèvement au ciel du prophète Élie. Alors, on a vu qu'il est parti sur un char de feu dans le ciel et qu'il a rejoint Dieu dans le fond parce que c'était un homme de Dieu et qu'il a transmis à son ami Élisée, son disciple, qui a continué sa mission. Il lui a transmis son manteau qui était le symbole de cette transmission-là. Mais ce qui va attirer notre attention maintenant, c'est que le personnage d'Élie a stimulé toute une littérature apocalyptique extra-biblique qui s'est développée autour de lui puis au temps de Jésus, où on attendait le retour d'Élie comme un événement qui allait annoncer la fin du monde, la fin des temps. Et je vous demandais tout de suite avant la musique, qu'est-ce que vous pensez de la fin du monde? On en parle beaucoup. Plusieurs en parlent pour décembre 2012, hein, ça s'en vient. Est-ce que ça va être à ce moment-là que la fin va arriver? Ceux qui parlent de ça, c'est à cause de la fin du calendrier Maya, mais on ne s'aventurera pas dans ce domaine-là. Mais qu'en est-il réellement? Il y a une véritable multitude de croyances au sujet de la fin des temps. De façon étonnante, il y a plusieurs personnes qui espèrent être enlevées au ciel comme Élie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est une tradition qui est devenue très populaire chez les chrétiens évangéliques américains. Ils vont parler, en anglais, ça s'appelle « the rapture ». En français, on pourrait parler de « ravissement ». Selon cette croyance-là, seulement les vrais chrétiens vont s'élever dans les airs pour rejoindre Dieu juste avant le jugement de la terre, et surtout avant les tribulations apocalyptiques. Donc, avant qu'il y ait toutes sortes de choses qui se passent pour détruire la terre, les vrais chrétiens vont être enlevés dans le ciel pour rejoindre Dieu avant la destruction. D'ailleurs, il y a beaucoup de films, de livres qui ont été produits pour illustrer cette doctrine-là qui est somme toute assez populaire chez les chrétiens évangéliques américains. Il y a même, moi j'affectionne la série des Simpsons, un dessin animé qui est fort intéressant. Il y a même un épisode des Simpsons qui porte sur ce sujet-là. Mais qu'en est-il? La fin du monde, c'est quand que ça va se passer? On se demande toujours cette question-là. Bien, pour ceux et celles qui vont adhérer à la doctrine du ravissement, the rapture, bien, ça devient très important de déterminer c'est quand la date que ce ravissement-là va se produire. Toutes les communautés vont avoir leur façon de voir, il y a différentes personnes. Je vous donne quelques exemples. Les Shakers, ça c'est une branche du protestantisme qui est issue des Quakers, sont très traditionnels. Eux avaient prédit l'événement en 1792. Ils pensaient que c'était à ce moment-là. William Miller, fondateur des Adventistes, lui, croyait que ça aurait lieu plutôt entre le 21 mars et le 22 octobre 1844. Il s'était donné quelques mois de jeu. Je continue la liste. Edgar Wisenand, qui était un ingénieur chez la NASA, lui, il s'est mis à étudier la Bible dans les années 80 et il a indiqué l'année 88 comme étant l'année pour la fin des temps. D'ailleurs, il a vendu au-delà de 5 millions de livres à ce sujet-là. Je pense pas qu'il a remboursé ceux qui les ont achetés, même si ça s'est pas avéré vrai. Il y a encore d'autres prédictions qui sont pas encore arrivées, qui vont se réaliser plus tard. Alors donc, par exemple, quelqu'un que vous connaissez, le nom Sir Isaac Newton. Newton, c'est la théorie de la gravité, tout ça, c'est un scientifique reconnu. Il vivait au 18e siècle. Lui lisait aussi la Bible et a proposé à travers ses calculs. Entre autres, il a pris différents chiffres dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, et il est arrivé sur un chiffre disant que la fin du monde devrait arriver après 2060. Alors donc, après 2060. Pour lui, c'était très loin, il était au 18e siècle. Pour nous, ça commence à se rapprocher. Mais honnêtement, je parierais pas sur ça non plus. On a vu toutes sortes de dates, et jusqu'à date, il n'y en a aucune qui s'est avérée vraie. D'ailleurs, les églises catholiques, les églises orthodoxes, ainsi que les églises protestantes plus traditionnelles, comme les luthériens et tout ça, vont pas rentrer dans cette tradition-là de ravissement. Ils vont pas en parler parce qu'ils trouvent aucun élément biblique sûr pour appuyer cette doctrine-là. Les traditions apocalyptiques prennent racine dans l'enlèvement d'Élie qu'on a lu aujourd'hui, mais ils vont l'interpréter d'une façon qui n'est pas nécessairement biblique. Il n'y a rien dans ce texte-là qui nous dit qu'Élie va revenir à la fin des temps et que nous-mêmes, on va partir dans le ciel. Ça, c'est quelque chose qui ne se retrouve pas dans la Bible. Alors donc, la plupart des églises catholiques orthodoxes et les églises protestantes traditionnelles ne vont pas aller dans ces interprétations-là. D'ailleurs, pour moi, le meilleur passage biblique pour nous aider à comprendre tout ça et surtout pour nous aider à tempérer nos paroles sur ce sujet-là, ça se retrouve dans l'Évangile de Marc, où il y a des personnes qui essayent de découvrir la date de la fin du monde et qui vont voir Jésus. Alors, en Marc, chapitre 13, verset 32, Jésus va avertir ses disciples que la fin est proche, oui, mais que le jour, l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges, pas même le Fils. Seul le Père sait quand cela va arriver. Donc, moi, je me dis, si le Fils de Dieu et les anges ne le savent pas, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut prétendre être plus informé qu'eux autres? En tout cas, pas moi. J'espère que vous avez apprécié cette émission portant sur l'enlèvement d'Élie au ciel. Si oui, je vous invite à vous procurer un exemplaire de « Mais d'où vient la femme de Caïn », un livre que j'ai écrit à propos des récits insolites de la Bible qu'on retrouve aux éditions Novalis et Mediapol. Terminons en remerciant Marie Laferrière pour ses lectures bibliques, Alain Primo à la technique, sans qui mes paroles ne pourraient pas se rendre jusqu'à vous. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on voit? On va aller voir un drôle de récit très différent où Dieu va se prendre pour un boulanger et nous donner une recette de pain sans gluten. Il est quand même à la mode. Alors, une recette de pain sans gluten dans le livre d'Ézéchiel. On regardera ça la semaine prochaine. D'ici là, je vous invite à prendre le temps de m'écrire, soit pour me donner vos commentaires sur l'émission ou ce que vous y avez découvert, ou plus simplement pour m'écrire des questions à propos de la Bible. J'aime ça et ça rend l'émission plus interactive. Alors, le courriel est assez simple, auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. C'était Sébastien Daune qui vous souhaite une agréable semaine. À la prochaine.